c'est Tu t'es voix, c'est la bande originale avec Léa Cadeau, Morgane,
salut,
Alexis Lorgeau, Tom Villa,
bonjour,
Tanguy Pastureau, Daniel Morin,
Morgane,
et bonjour Daniel,
et nos invités Alix Poisson et Thierry Blanc.
Oui.
Ah oui,
Alix.
Pour la série Événement Germinal, l'adaptation évidemment du...
On était obligé de la voir, hein, Germinal, sur France Inter.
Le roman de Balzac.
Incontournable.
Mais quelle série incroyable. Déjà, moi, j'adore Alix Poisson et Thierry Godard. Le casting est formidable. Avec Louis Pérez, Guillaume de Tonquédec, Natacha Ladinger, Samy Bouajila, Rose-Marie Perrault, qui est une découverte pour moi. Je ne sais pas si vous la connaissiez ou pas, cette actrice canadienne. On va en parler avec eux dans quelques instants de cette adaptation de Germinal.
Déménagement, ça se passe bien?
Oui, alors j'ai pas de casque. Voilà, je vous le dis, je suis à l'aveugle. Voilà. Les deux sont en mi-août et.
Mais alors?
Je sais pas ce qui m'a
fait. Allez, allons-y.
Je parle.
Allez,
le premier titre.
Oh,
attention.
Oui.
Leïla Sardou.
Morgane. Alors, je suis très loin. Moi, j'irai Demis Roussos, mais j'entends pas bien. Donc,
Non, pas Sardou.
Morgane. C'est pas les Chorons.
Pierre Bachelet.
Les corons.
Alors,
Daniel les corons. Daniel les corons.
Mais attends, je croyais que c'était une vanne.
Moi aussi.
Les chorons.
Voilà, à sa tête, a priori, non. Hein.
Je croyais que c'était.
Soyez bienveillants.
Mais sa tête est une vanne.
Non, les gars, depuis quand?
Laissez-la.
Tout ce que tu dis de Paris, je suis jamais.
C'est les chorons de Pierre Bacquelet.
Terrence, après.
Mais c'est ça ou pas?
C'est ça.
Oui, c'est ça.
Attends, on peut pas attendre.
C'est pour qui le point?
Les chorons.
Oh mais quel analphabète. Je suis désolée.
Le point est pour Chorgane.
Je suis désolée pour tous les chorons. Tous les chorons et les choronnes.
Allez Morgane.
Allez Chorgane, tu as le premier point. Mais c'est la dernière fois.
Chorgane. Les profs de français, ma mère.
Alexis, j'ai voulu planter un oranger, Renaud.
Oula.
Un oranger.
Un orangé. Attention.
C'est la balade.
C'est Citroën, ça n'a rien.
Oui, c'est la balade dans la soirée.
Les chorons, quoi. Attends.
Nord-irlandaise même.
Je la note.
Le professeur Coron.
Lorsque la pierre. Je suis mortifière.
Qui chante ça?
Ah, Tom, ça pue le Madonna.
Non.
Ça pue le Madonna.
Ouais, mais c'est vrai.
Daniel.
C'est genre
Photonovela.
Non. Mais attendez, vous n'avez pas compris le thème encore?
Non.
Le Nord. Ça ressemblait à Photonovela.
Oui, voilà, on est plutôt au Nord, oui.
Mais si, je vois très bien.
Ça peut être le
Daniel,
nord de le...
C'est l'amour.
Oui.
Bravo.
Et Paul Nord et vous.
Ah oui, donc ça pue beaucoup moins le Madonna du coup. Hein.
C'est Madonna.
Qu'est-ce que tu voulais dire?
Je vous rappelle la règle du jeu. Ouais, j'ai l'impression que là,
ils sont très dissipés.
Morgane, vous me donnez, votre prénom. Vous attendez que je vous donne la parole pour donner la réponse. Non, mais.
Tom, les gens du Nord.
Tom.
Enrico Macias.
Et... Enrico.
Pardon.
Oui, hein.
Mais c'est pour ça, j'ai donné le.
Désolé.
Qui n'ont pas dehors.
Carton rouge.
Les gens du Nord.
Les corons, la chambre. Ouvrent
toujours leur porte à ceux qui ont souffert.
Parce qu'elle est
les belle. Gens du Nord.
What's up? Qui chante?
Ah.
Tony Leila, Tony Parker, non.
Ton prénom et quand je te donnerai.
Mais elle peut pas se faire appeler Tony Parker, non,
non
on a pas
elle, pas, elle n'est pas Tony Parker. Elle joue au basket, mais elle n'est pas Tony Parker.
C'est ça?
Mami. Kamel.
Non.
Daniel.
Leila. Chef Mami.
Daniel, comme ça.
Non, c'est bon. Parisien du
Nord, clan de. Ah ouais, donc c'est la peu près blind test.
Mais quoi?
Mais quoi? C'est Chef Mami, c'est pas
Chef Mami.
C'est Chef Mami. Jalouse.
Chef Mami avec qui?
Jalouse, t'as bien.
Non, c'est qui? C'est Chef Mami et qui?
Et Kamel. Ça s'appelle.
C'est pas Alliance Ethnique.
Et Kamel d'Alliance Ethnique.
C'est Alliance Ethnique.
Oui. Et ça s'appelle Parisien du Nord.
Ah ouais.
Qui chante?
Alexis.
Oui.
Johnny Roquefort. Starmania.
Oui.
Non,
ouais, c'est Balavoine surtout.
Balavoine.
Et banlieue nord.
Oui, mais c'est dans Starmania.
Oui. Ouais. C'est pour ça que tu as le point.
Ah mais non, là à peu près blind test.
Là, Tom.
Attention.
Petit jogging.
Deux points pour Alexis, un point pour Morgane, un point pour Leïla, un point pour Daniel, un point pour Tom. Autrement dit, tout se joue sur le banco qui rapporte 3 points. Et si personne ne le trouve, c'est Alexis qui gagne.
Ah non.
votre prénom et vous attendez que je vous dise de me donner le nom de l'interprète.
Dans ton lit. Daniel.
Daniel.
Alors, Bolivien.
Non.
Leïla.
Oui.
Stop.
Non. J'ai c'est plus calme, c'est plus gentil.
Tom Souchon.
Non.
Non. Mais quand je m'éveille
au matin, je comprends. Alexis, Nicolas Perrac.
Non.
Leïla.
Oui.
Stéphane.
Non plus. Ça s'appelle Le pôle Nord commence ici. Le pôle
Nord commence ici. Daniel.
Dis-moi.
Félix Garel.
Non.
Attends, mais c'est une voix que je connais, mais elle est très jeune.
Exact.
Leïla.
Oui.
Bachung.
Oui.
C'est Bachung.
C'est Alain Bachung des Inédits. Regarde la danse de la vie.
J'étais à ça de gagner.
Il était jeune, hein.
Pour une fois.
Ouais, ouais. Ah ouais. C'est Leïla qui l'emporte ce blind test. Et merci d'accueillir Alix Poisson et Thierry Godin. France Inter, la bande originale avec Nagui. Bienvenue, on est ravis de vous accueillir, Alix, Thierry, merci d'être là, et surtout déjà d'entrée, bravo pour cette série Germinal, l'adaptation alors qualifiée de moderne et audacieuse. J'aime bien les communiqués de presse, moi, finalement. J'aime bien ce pitch-là, parce que
c'est moderne, c'est audacieux.
Non, en tout cas, c'est extraordinairement d'actualité quand on, avec un peu de recul, Alix Poisson, tout ce qui est raconté dans Germinal trouve un écho aujourd'hui.
Ben oui, c'est ça, que c'est pour ça que c'était bien de l'adapter. C'est parce que, puis c'est un peu le propre des grandes œuvres intemporelles. Mais là, c'est vrai qu'on était frappé et en relisant le livre et en lisant l'adaptation qu'ils en ont fait, que du fait qu'il y avait tellement d'écho avec tout ce qui pouvait se passer aujourd'hui. Alors, et qu'on pouvait vraiment, ça racontait quelque chose de notre monde d'aujourd'hui. Et c'est ça, ça qui est intéressant, parce que sinon, si c'est pour faire un truc fossilisé qui parle que d'une époque révolue, c'est pas très intéressant, quoi.
Très bonne blague, fossilisée sur les mines de charbon, très fort.
Pas mal, j'adore. Pas mal. Enfin, elle est que pour vous. Je l'ai vraiment pas fait exprès.
J'adore. Bah,
nous, j'arrêterai là. Hein.
On sort des chaurons. Si
on est Morgane Cadignan.
Oh, Morgane, j'adore.
Je voudrais qu'on n'en parle plus jamais.
On est, ah bah, non, pas, ça risque d'être un surnom pendant un certain temps.
Ouais, Morgane Choron.
Morgane Choron. Comment vous êtes projeté dans Thierry Godard, dans ce personnage du Maheu, avec tout le poids, d'abord de ceux qui ont déjà incarné ce rôle, parce qu'il y en a eu des Germinal.
Germinaux.
Revu et corrigé.
J'ai vu Gégé.
Non, impossible de faire autrement
que de faire comme Gégé.
Non, de le voir en tout cas.
Ah, de le voir.
De le revoir, je sais pas, vous l'aviez vu à l'époque.
J'avais vu à l'époque. Non, fallait le revoir quand même. Fallait le revoir. Je me suis dit, je le revois. Allez hop. Se projeter, je me suis pas projeté. Je me suis dit, j'attaque le truc simplement. On va voir ce qui vient.
Pour résumer pour les plus jeunes d'entre nous qui n'ont pas lu Germinal et pas vu la série, qui sera, je le précise, sur France 2 à partir du mercredi prochain 27 octobre à 21h, à raison de 2 épisodes par soir pendant 3 mercredis. Une production assez impressionnante, parce que ça se passe dans
du spectacle,
dans une mine. Ah ouais, clairement.
Ouais, ouais, ouais.
Clairement, c'est-à-dire que quand ça explose, ou quand t'as l'ascenseur qui descend à 600 mètres de profondeur, t'as l'impression d'être dans l'ascenseur, et c'est pas Disneyland. C'est l'histoire d'une mine, mais surtout l'histoire d'une famille. C'est-à-dire, il y a vraiment un côté humain. Vous êtes en couple avec 4 enfants.
Avec 6 enfants.
Mais oui.
Dans le livre 7.
Ah ouais.
Et là, on en a 6.
C'est ça.
Voilà.
C'est une raison budgétaire qui...
C'est-à-dire que tourner avec des enfants est quand même quelque chose qui demande une certaine organisation. J'ai l'habitude, mais là, quand même, on en avait déjà beaucoup. Non, après, il y a des grands. On a trois... deux grands.
Ça serait pas des parents démissionnaires, ça.
Oh, ou 4 petits, enfin bon.
Et un grand-père.
Et un grand-père qui vit à la maison.
Et un grand-père.
Bah oui, parce que,
extrêmement bouleversant et touchant aussi. C'est un taiseux, mais il envoie tellement de messages.
Ben oui, et puis c'est une réalité économique aussi. C'est-à-dire que dans chaque maison du coron, chaque paye est hyper, hyper importante, quoi. Donc la paye du grand-père qui est est certes moins importante que celle des autres parce qu'il travaille moins, parce que il est plus âgé, elle compte beaucoup dans les revenus du ménage. Donc tout compte en fait.
Tout compte, le moindre sou compte, mais aussi vous avez des valeurs dans cette famille. Il y a l'honneur de ne pas accepter que le fils vole, par exemple. Ça c'est des choses, on ne fait pas ça chez nous. Quand les propriétaires ou en tout cas ou de riches bourgeois viennent visiter la maison comme on va au zoo finalement, avec des remarques extrêmement désobligeantes, d'un coup c'est le cri du cœur, mais on n'est pas malheureux ici, vous savez, madame.
Ah oui, ils ont
leur honneur de...
Ah oui, ils ont une dignité, et d'ailleurs quand on avait préparé avant avec Thierry, on s'était dit qu'il y avait parce que c'est très fort dans le livre, ils ont beau crever de faim et elle, on la découvre quand même dans le livre, c'est pareil. La première scène, elle est quand même en train vraiment d'aller mendier d'abord chez l'épicier, puis après d'aller mendier chez les bourgeois. Donc c'est une humiliation permanente. Mais malgré tout ça et malgré la pénibilité du travail à la mine et tout ça, ils sont super fiers, super dignes. Et il est hors de question de dire qu'on est malheureux, quoi.
Et Thierry Godard, du côté de la mine, du travail, au-delà de ce cœur, parce que moi, ce que j'ai redécouvert en voyant votre série, en fait, c'est qu'il y avait tout un côté presque thriller et de suspense dans ce qui va se dérouler. Il y a un côté extrêmement humain dans les histoires d'amour, voire alors, il faut pas que je le dise pour que les d'amour forcé, d'amour imposé, d'amour jamais atteint aussi ou idéalisé. Et puis il y a les syndicats. Évidemment, il y a tout ce côté le rapport au patron, à l'exploitation des ouvriers, des négociations, des réunions qui laissent, encore une fois, on sent qu'on est sur les bases, notre société sur ces bases-là dans Germinal.
La création même du syndicat, parce qu'eux, ils n'étaient pas organisés du tout. C'est Lantier qui dit à un moment donné, il faut mettre un petit peu de pognon chacun de votre côté pour pouvoir faire une grève, pour pouvoir subvenir à vos besoins si on fait grève. Eux, ils sont pas organisés du tout, ils se laissent faire, ils se laissent...
Et ils ont pas le droit, en plus.
Ils ont pas le droit. Étienne Lantier, lui, fuyant d'autres régions où il a été menacé parce qu'il avait essayé de mener ce même genre de discours. Et puis, il y a le... Parce que c'est un grand acteur italien qui est Stefano Cassetti, qui joue un peu le rôle du...
Sous-marine,
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il est... il a des infos, c'est l'intellectuel qui...
Oui, et puis c'est le nihiliste. C'est vraiment le nihiliste absolu. C'est-à-dire que lui, il est déjà de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il a déjà mené les combats, il a déjà vu ça et il a
déjà vu... c'est peine perdue pour lui.
Voilà, il a déjà vu les échecs que ça pouvait engendrer et surtout la violence immense que ça peut engendrer, parce que ils vont être confrontés à ça aussi. C'est-à-dire que Lantier, c'est un peu une espèce de prophète qui va tous les réveiller et les amener à une sorte de conscience du fait qu'ils ont des droits et qu'ils peuvent se battre et qu'ils n'ont pas à être traités comme ça. Mais sauf qu'il y a un moment où ils n'avaient pas prévu aussi les proportions que ça pourrait prendre. Et Souvarine, lui, il le sait déjà. Et donc, il est déjà dans l'idée que de toute façon, ça ne sert à rien. Alors après, tout ça est très discutable, mais ce qui est super, c'est qu'il y a tous les points de vue.
Oui, puis même du point de vue du patronat, des riches qui exploitent les travailleurs, il y a aussi deux points de vue, celui du personnage de Guillaume de Tonquédec d'un côté, celui de Samy Boisgila de l'autre. Là non plus, ils n'ont pas le même rapport à l'autorité ou à l'exploitation minière, avant de parler de l'exploitation des ouvriers. Tout ça est extrêmement bien traité avec un portable que c'est le
tien.
Allez. Oh, tu m'as regardé.
Je crois que c'est Morgane qui se fait un appel du pied.
Je ne pouvais pas croire un dixième de seconde que ça soit moi qui le soit.
Mais ça pouvait être que moi, maintenant.
Mais évidemment. Mais la victime, tiens.
Hystérique. Encore une fois.
Le bouc émissaire. C'est fou, ça rappelle vraiment le lycée, t'as le cœur qui bat tout de suite.
Et toi, la Chouron.
Ça va, c'était pas méchant.
Alix, le vendredi, il est exécrable.
Alix, moi je pars en vacances, vous allez continuer, je vous garantis que
pas sûr.
Je vais vous écouter. Alix Poisson et Thierry Godard, en tout cas, sont nos invités jusqu'à 12h30. Germinal, c'est à partir de mercredi sur France 2 et je vous encourage à le voir. Mais alors, nous, on est ravis de vous accueillir. Par contre, Chouron,
t'es morte.
La professeure, Chouron, c'est comme ça. Morgane Cadignan ne vous aime pas, mais pas du tout. Il y avait les chaudes.
Allez, c'est parti.
Alex Poisson, Thierry Godard, je vous aime pas. Parce qu'on est vendredi. Et que pour l'occasion, un sujet léger. Un sujet soleil. Un sujet bon week-end. La mini-série germinale d'après le roman d'Émile Zola. Émile Zola qui...
Émile Zola qui est malade.
C'est une maladie. Elle nous a fait coupe championnat cette année, Marianne.
Émile Zola qui n'est pas seulement un lycée à Aix-en-Provence. Écoutez, je le découvre en même temps que vous. La série, elle m'a un peu réconcilié avec Mimille, parce que moi, j'avoue que pour moi, Zola, c'est plus simple quand c'est en fiction. Ouais. En seconde, j'ai été forcée de lire L'Assommoir pour l'école. Et ben, il porte très très bien son titre. D'ailleurs, j'en profite pour adresser mes félicitations sincères aux Parisiens. Il n'y a pas de retour du prénom Gervaise dans les squares du 9e arrondissement. Alors bravo les gars, pour une fois, vous avez été raisonnables. Parce qu'à la sortie de la crèche, Marcel et Léopoldine, ça passe encore. En revanche, Gervaise ou Dreyfus, faut le porter, quoi. Donc retour à la légèreté avec ce bon vieux bout en train d'Emilio. Pour tous ceux qui, comme moi, dont le livre est tombé des mains. Tomber des mains, c'est une expression Leïla Cadourienne pour dire c'est chiant, mon Dieu. Je vous fais un résumé avec mes mots à moi, mes mots d'enfant. Déjà, faut partir du principe que les héros de Zola, c'est rarement des plongeurs qui plaquent tout pour devenir surfeurs. On est sur de la destinée un peu cabossée par la vida, quoi. Dans Germinal, le livre, le point de départ, c'est Étienne Lantier qui se fait virer de son boulot parce qu'il donne une gifle à son employeur. D'ailleurs, Nagui, je voulais vous dire merci de m'avoir gardé après l'incident de la semaine dernière et pardon. Pardon d'avoir gardé ma bague. Non, mais c'est vrai, le pauvre. Je lui tenais la porte de l'ascenseur, il m'a dit merci beaucoup, mais il avait le nez bouché, j'ai entendu merci beaucoup et c'est parti tout seul. Faut faire super gaffe, hein, parce que l'explosion du MeToo en même temps que l'explosion des rhinopharyngites, il peut y avoir des erreurs. Donc Étienne, après s'être fait renvoyer, il part en BNB chez une famille de mineurs. Et franchement, les photos étaient mieux que la réalité. En vrai, c'est humide, il fait pas beau. Il tombe amoureux de la fille de la maison, qu'il aime bien aussi, mais elle se fait taper dessus par son cum. C'est vrai que quand tu vis dans le Nord au 19e et que tu bosses dans une mine, un peu de violence domestique, bah, ça serait con de s'en passer, c'est gratuit. Donc de là, Étienne observe les conditions de travail et il est un peu scandalisé, genre, oh là là, comment ça, il y a pas de ticket à resto, on peut pas faire de notes de frais pour rembourser le quignon de pain sec de ce midi. Et il bascule Martine Aubry, la mine, oui, mais 35 heures max. Et il dit, dis donc, oh. Bon, il dit d'autres trucs, mais je vais pas vous mâcher tout le boulot non plus. Je suis pas un nanabac, quoi. Après, dans le livre, il y a un mec qui sabote la mine et il y a un accident que je vous laisse découvrir, mais je préfère prévenir. Ça finit pas au pied du sapin en se disant qu'on s'est fait bien peur, mais que le vrai trésor finalement c'est l'amour et la famille. Alex Thierry, franchement, respect, car vous avez les épaules pour incarner cette histoire. J'espère simplement que le reste de votre actualité c'est l'adaptation ciné de Tchoupi et Doudou, parce que sinon vous allez jamais tenir l'année. Je vous laisse même décider de qui est Tchoupi, de qui est Doudou, même si j'ai ma petite idée.
Merci Morgane Choron.
Choron-Zona.
On retrouve Morgane sur scène du jeudi au samedi au théâtre Métropole à Paris et en tournée dans toute la France.
Et le dimanche
à 20h.
Vite temps reposé. Une série avec un nombre incalculable. D'ailleurs, ce qui est bien, c'est, pardon, sans vous insulter, il y a beaucoup de rôles principaux dans cette série.
Ah oui, c'est très, choral. Oui, bah, bien sûr, c'est vraiment une troupe.
C'est un problème.
pour le cacher.
Non, c'est vraiment.
500 cacritines, c'est quoi le problème?
Non, c'est vraiment. C'est une belle troupe. C'est vrai, c'est vraiment une. Et puis c'est le talent de David Oureg, notre réalisateur, ouais, entre autres, parce qu'il en a beaucoup. Mais c'est que il a vraiment réuni. Moi, je trouve. Ouais, c'était vraiment une troupe, quoi, sur le tournage.
Avec des révélations entre guillemets. Vous parlez de David Oureg. Il a réalisé Scam. Scam, on peut appeler ça une série entre guillemets branchée qui a énormément de succès, mais qui est une nouvelle écriture, en tout cas dans la réalisation. Il est venu, lui, je crois que c'est la première fois qu'il réalise une grande saga comme ça, ou une reconstitution aussi pointue. Idem pour Julien Lilti, à l'écriture, qui vient de l'équipe d'Hippocrate, et dans le rôle principal, l'un des rôles principaux, Louis Pérez, qui lui vient de la série Mental, et qui incarne Étienne Lantier. Je rappelle la présence de Guillaume de Tonquédec, de Natacha Ladinger, de Samy Bouajila, de Rose-Marie Perrault, et d'avoir surtout ce nombre incalculable de décors, parce que on se balade dans une, je sais pas si une reconstitution, si ça a été tourné dans le Schnorr,
à Marseille, on a tourné dans
ou une reconstitution de studio, je sais pas,
ça dépend, en fait ça dépend des moments, mais il y a beaucoup d'endroits qui sont des, par exemple notre maison, le coron, c'est un ancien coron.
Ah, vous dites coron, vous?
Oui. Normalement, oui. Expliquer. Normalement. Bon, là, je crois qu'on a compris. J'étais pas là, mais j'ai compris.
J'ai compris que dans l'histoire, il y a un con.
C'est moche, Alix. C'est moche, on doit soutenir, on est que trois.
Parce que nous non plus, on ne vous aime pas.
Alix, j'adore.
Alix.
Si, elle est formidable, cette femme. Elle est formidable.
Non, mais...
Elle n'a jamais été. Elle n'a
enfin, quelqu'un l'a dit.
Oui, c'est ça.
Mais c'est faux, surtout. Parce qu'on vous aime. Non, mais il y avait des vrais décors qui, en plus, qui nous portaient vachement, nous. Parce que, quand même, quand on arrive, par exemple, dans cette rue qui était une rue d'un ancien coron, désaffectée. Donc, évidemment, la déco avait fait un énorme travail, mais. Il y a une âme hein, quand on arrive.
Il y a de véritables sites miniers dans lesquels
oui,
vous avez tourné.
Absolument, ouais, tout à fait. Et puis après, il y a des
et qui sont chargés et qui sont chargés de d'émotions parce qu'on sait qu'il y a des vies qui malheureusement et pas que les coups de grisou, mais il y a beaucoup de personnes qui sont mortes dans ces mines. Il ne faut pas oublier aussi la charge, le poids, parce que quand on évoque les mines dans le Nord, on sait qu'il y a un poids culturel à parler des corons, à parler de ces mines, à parler de ce travail. Mais des familles ont été blessé, meurtri par ce travail justement.
Ah bah oui, puis déjà il y a des gens.
C'est pas que de la fiction. Hein,
ah non. Et puis il y a des gens déjà qui ont trimé, mais vraiment trimé pour commencer. Et je pense qu'on a du mal à imaginer la pénibilité de ce que ça pouvait représenter. C'est hyper bien décrit dans le livre et on en voit une partie dans la série. Mais on parle quand même de gens qui pouvaient travailler 14 heures par jour dans une température qui avoisinait 50 degrés.
Non, puis qui respiraient surtout des choses fatales.
Qui respiraient des choses fatales. C'est ce qu'on voit avec le grand-père qui est encrassé, qui a les poumons détruits et qui peut plus rien faire.
Il est bouleversant. Ouais. Franchement, on va pas tout raconter de son intrigue.
Céder ses morceaux de pain aux petits enfants, c'est se dire que c'est cette solidarité là. Lui, c'est le patriarche qui a tout vu, qui est sans doute pas, qui a pas beaucoup d'illusions sur la suite de sa vie.
Et sur l'avenir de ses enfants.
Et l'avenir de ses enfants et ses petits enfants. Ouais.
Avec c'est le taiseux avec les yeux humides. Ouais, et puis justement à propos d'avenir d'enfants, c'est aussi une famille où l'éducation n'a pas eu vraiment sa place.
Et c'est un problème quand elle veut faire des études.
Voilà.
Quand il y a la petite dernière...
Les parents ne savent ni lire ni écrire, et l'une des petites...
A des dispositions pour continuer, pour la maîtresse lui dit que c'est une petite fille intelligente, mais en même temps on lui dit tu peux rester pour garder le bébé le temps que j'aille faire les courses, donc on la prive d'école aussi, parce que là encore, la priorité c'est de nourrir les habitants.
Mais ça rigole pas. Hein.
Et puis c'est là où c'est quand même, il y a plein de moments où c'est très actuel. Enfin nous, il y a plein de scènes où quand on les jouait, la scène où nous on est tous les deux et où on fait nos comptes pour savoir ce qui nous reste, on n'a plus rien et qu'on se dit bah il faut trouver une solution hyper concrète, faut qu'on ait un logeur, c'est quand même, enfin c'est des choses qui peuvent arriver aujourd'hui, et une enfant qui dit moi j'aimerais bien continuer mes études et les parents qui disent bah non on est navré mais en fait là c'est pour nous c'est pas possible, on peut pas payer ça, c'est des choses qui arrivent aujourd'hui quoi.
Vous avez compris, c'est une série feel good.
Non, justement. Voilà, c'est ça.
Voilà. Pardon.
Non mais vas-y. Merci Daniel. Je suis d'accord parce que il y a cette toile de fond et puis à côté de ça il y a quand même des, je le redis, des histoires d'amour, des histoires humaines. Je trouve qu'il y a beaucoup de,
pas non plus
de tendresse
tout le temps.
C'est ça. Et puis
justement, ce qu'on voulait faire dans notre couple, c'était à ramener un petit peu
de sexe,
un petit peu de sexe dans la baignoire.
Et de complicité.
Ah si, la scène où vous l'astiquez, enfin vous lavez.
Vous lavez. Qu'est-ce qui s'est passé?
Vous le lavez, vous le frottez.
Bah là, on m'attendait depuis longtemps au virage.
C'est du cirage.
Oh le mur.
Il est noir.
Et bah alors. Qu'est-ce qui se passe?
Dis donc Jean, allez-y tout droit les pneus. Allez, bisous, crac.
Effectivement, non mais parce que pour revenir à ce que disait Morgane, effectivement je pense qu'on peut être nombreux à avoir une image parce qu'on l'a lu au lycée et qu'on se dit oh là là, oh là là. Sauf que déjà, quand on le relit et qu'on n'est pas forcé de le relire, enfin moi je l'ai relu avant le tournage et je me suis quand même dit mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a un souffle, il y a une ampleur, il y a tous ces personnages hyper complexes qui sont ambivalents, qui tombent, qui se relèvent. Enfin c'est magnifique et l'adaptation elle est pareille. C'est-à-dire que je trouve que quand on regarde la série, oui il y a c'est difficile, oui c'est des gens qui ont un quotidien extrêmement extrêmement dur, mais il y a aussi toute l'ampleur poétique autour, quoi.
Et la force de la fiction. Je reviens aussi au suspense de, on va dire, un peu le côté policier, le côté...
Le côté astiqué de la série, oui.
Le côté, non, mais la bande, bande, les voyous, des malfrats, des magouilles, des agressions qui sont faites, et on ne sait pas trop qui manipule qui, on ne sait pas trop les menaces, comment ça va finir, est-ce que certains vont sortir vivants ou pas de ces agressions pour éviter que les syndicats existent, est-ce que les les patrons envoient des espèces de brigades secrètes pour frapper, tuer les ouvriers les plus récalcitrants parce que c'est leur fortune qui est en jeu au mépris des droits sociaux. Et il y a aussi cette intrigue autour d'Étienne Lantier, quoi. C'est est-ce qu'il va s'en sortir ou pas? Est-ce qu'il va se faire à nouveau gauler par ceux qui le cherchent depuis les anciennes mines où il avait fui parce qu'il avait cherché à monter des syndicats? Il y a ce suspense là aussi qui est...
Oui, et puis ils sont quand même tous dans une énergie vitale. C'est-à-dire que quand on les découvre, tous, ils sont une espèce de croisée des chemins.
Et c'est une question de vie ou de mort en permanence.
Ouais, je trouve qu'on passe la série vraiment à se dire, comme dans les meilleures séries, les meilleures fictions hyper haletantes, je trouve qu'on passe la série à se dire, est-ce qu'ils vont y arriver? Est-ce que Catherine va s'en sortir? Parce qu'elle est quand même dans un phénomène d'emprise incroyable. Est-ce que les Maheu vont s'en sortir? Est-ce que cette grève va pouvoir avoir lieu? Ou est-ce qu'ils vont être fauchés en plein vol?
Enfin, et la place des femmes aussi. C'est-à-dire qu'il y a la mère qui tient la famille avec votre personnage. Et puis il y a je crois que c'est la fille de Tonquédec qui essaye d'aider aussi.
Oui.
Voilà. Qui essaye d'aider, de glisser comme ça de l'argent le plus discrètement possible. Il y a votre propre fille aussi qui, elle, est promise à un mineur mais qui tombe amoureuse d'un autre.
Enfin,
voilà. Donc il y a tout ce côté aussi
romanesque presque.
Ouais, j'ai envie de dire non, mais cette place des femmes qui s'affirme de plus en plus parce
prennent conscience qu'ils s'émancipent, parce que votre personnage aussi tout d'un coup parce que Étienne, ce personnage, arrive avec ses idéaux et c'est lui qui amène cette dimension aussi poétique de la force du collectif, de la possibilité de s'en sortir ensemble, et il contamine progressivement les uns les autres.
Et pourquoi pas?
Et pourquoi pas? Et votre personnage qui en effet a pas eu accès à une éducation, mais qui est une mère aimante, qui est une mère consciente, elle aussi, elle grandit dans sa conscience politique.
Bah c'est ça que je trouvais fascinant comme construction, c'était que quand on la découvre, et c'est un peu le cas de tous, on est dans quelque chose de l'ordre de la survie. C'est une louve au début. Elle est dans quelque chose de très binaire, protéger, nourrir. Et elle n'a l'espace mental que pour ça. Et tout à coup arrive ce prophète, ce chaman, parce que les chamans, ça ne fait que ça, ça ne fait que déplacer les énergies. Prophète, pas du tout au sens religieux du terme, mais de quelqu'un qui tout à coup permet aux gens d'accéder à une conscience, et c'est pas une conscience intellectuelle, savante, ou c'est quelque chose, elle a aucune conscience intellectuelle de tout ça, c'est quelque chose, c'est comme une prescience,
mais
c'est comme un
temps.
Truc qu'elle a dans le ventre, de se dire ce gars-là peut changer notre vie.
Oui,
donc saisissons cette chance.
Et il tient un discours qui résonne chez Maheu aussi, c'est-à-dire que votre personnage, Thierry Godard, n'a jamais eu le courage, pardon de le dire comme ça, de l'exprimer, mais par contre... Il adhère aux idées d'Étienne.
Lui, c'est tout ce qu'il aurait peut-être aimé faire à un moment donné, qu'il n'a pas fait, parce qu'il a une famille aussi. Il a une famille à nourrir et qu'il ne peut pas.
Beaucoup à perdre.
Il ne peut pas risquer.
Il a beaucoup à perdre. Et en même temps, quand il voit ce gamin, quoi, qu'il est fasciné, et à un moment donné, il écoute, et à un moment donné, il se dit, tiens, on y va. C'est ça qui est beau.
On est dans une toile de fond très aussi gilet jaune. Je pense que vous l'avez entendu 25 fois dans les interviews, mais c'est vrai qu'on trouve cette écho-là de crise sociale.
En tout cas, il y a cet écho des gens désespérés qui, à un moment donné, vont à la mort pratiquement pour se sauver, et j'espère que ça fera écho avec ça. En tout cas,
Germinal, c'est une réussite en tout cas, et c'est mercredi prochain sur France 2 à 21h avec Alix Soisson et Thierry Godard qui sont nos invités, entre autres, mais aussi on reviendra sur le
bingo. C'est les deux meilleurs quand même du casting, sinon on n'aurait pas invité,
c'est fou.
Guillaume de Tonquédec, Samy Boisgila, parce que le rapport des deux, le bras de fer entre les deux patrons, les deux tauliers aussi est intéressant et extrêmement bien interprété, sans parler des histoires d'amour entre Étienne Lantier, joué par Louis Pérez, et Catherine Maheu, donc joué par Rose-Marie Perrault. Mais d'abord, voici Alexis Le Rossi.
Bonjour à tous.
Bonjour à toi.
Alors hier, j'étais sur Internet, cherchais un sujet à la fois intéressant et pas trop compliqué à traiter. Hein, chacun ses techniques. Mais il n'y a pas grand-chose de simple en ce moment. Alors si j'ai trouvé un article sur le premier baiser lesbien dans L'Amour et dans le Pré. Au début, j'y croyais pas. Hein. J'ai regardé la vidéo entre mes doigts, comme ça. Mais c'est vrai, deux femmes ensemble à la télé. Hein. On n'a pas été habitué à ça. Hein. Alors, j'ai commencé à écrire deux, trois trucs là-dessus. Puis à la relecture, je me suis dit, est-ce que ça va faire marrer les gens, ça? Reste focus, Alex. Carottes, jambon, betteraves crues. Le sexe, les genres, tout ça, c'est pas trop ton truc, quoi. Si je peux éviter de me fâcher avec la communauté lesbienne, hein, imaginez des dizaines de femmes en colère à la sortie de mon spectacle en train de crier « Rossignol, misogyne !» et pas une que je puisse ramener chez moi. Non, merci, quoi.
Oh,
la classe.
Parmi les sujets que j'ai trouvés...
Ça part très mal.
Il y a la Lettonie aussi, qui reconfine sa population actuellement.
Ah, voilà.
Mais le problème de cette info, c'est que c'est pas qu'on s'en fout, mais pas loin quand même, quoi. Et là, je me suis dit, Alex, c'est pas très sympa de dire ça. C'est vrai, c'est pas parce qu'on parle peu de la Lettonie qu'il faut pas en parler du tout. D'ailleurs, pourquoi tu ferais pas une chronique entièrement dédiée à la Lettonie? Une sorte d'hommage, voilà, pour montrer qu'on pense à eux. Allez. Ils n'ont jamais vu le soleil. Ils ne savent même plus sourire. Il n'y a plus que des larmes dans leurs yeux si bleus. Je me suis un peu inspiré de la chanson pour l'Éthiopie. Loin du cœur et loin des yeux, de nos villes, de nos banlieues, la Lettonie meurt peu à peu, peu à peu. Rien qu'une chronique pour eux, pour ne plus fermer les yeux, c'est beaucoup et c'est bien peu. C'est vrai que c'est bien peu. Alors la Lettonie, c'est quoi précisément? Merci beaucoup. La Lettonie est un pays balte. Sa capitale est Riga. Bien fait à l'effet.
Une mise en scène, ouais.
J'ai vu que ça avait marché.
On le voit en vidéo. Hein.
Faut encourager tout le monde à regarder la vidéo, sinon on comprend pas le silence avec le merci.
C'est troublant.
Ah, en plus, j'ai dit merci. Ouais, d'accord. Okay.
Ah, oui, ben en plus.
Donc la Lettonie est bordée par la Lituanie au sud et par l'Estonie au nord.
D'accord.
Elle possède aussi des frontières terrestres avec la Russie et la Biélorussie. Mm-hmm. La Lettonie est membre de l'Union européenne. Allez, je savais pas ça. Ah je découvre en même temps que vous.
Ah ouais.
Depuis 2014, sa monnaie officielle est l'euro.
Tu prépares, la prochaine rubrique de Fanny Rue, et là je peux te dire qu'elle va se régaler. Là.
Démographie. La population lettonne est de 1,9 million d'habitants. 68% de la population vit en zone urbaine et 30% en zone rurale. Il leur manque 2% d'habitants là, non? Entre 91 et 2011, la Lettonie a perdu plus de 23% de sa population en raison d'un taux de fécondité extrêmement faible et d'un solde migratoire négatif. Eh ben, ils baissent pas et ils sont bons. Ça a l'air vachement agréable comme pays. Histoire. C'est un pari que j'ai pris là. Je sens que...
De quoi? De lire la fiche Wikipédia de la Lettonie?
Vous êtes avec moi, là, ça fait plaisir.
Non, pas du tout.
La Lettonie compte peu de victimes militaires. Forcément, si les gens se barrent. De victoires militaires, pardon. Elle a toutefois gagné...
Oh non, le mec.
Elle a toutefois gagné...
C'est pas vrai.
L'Eurovision en 2002. L'Eurovision, c'est une victoire militaire.
T'as conscience de vivre là la fin de ta carrière ou pas?
Oui, peut-être, ouais, mais bon, écoute.
Des bons droits d'auteur.
Il y en a qui ont su se relever d'autres choses, hein. Alors, politique. Faut bien placer des trucs, quoi.
Ouais.
Quand on n'a pas de répartie.
Faut gagner du temps.
Le président de la République se nomme Raymond Vejonis. Il est le premier président européen issu d'un parti écologiste. Ah, c'est bien, ça. De père letton et de mère russe, Raymond Vejonis passe ses jeunes années dans le village de Sarkany, dans le district de Madonna. Il pratique le tennis de 12 à 14 ans. Puis, en raison de sa grande taille, il se tourne avec succès vers le volleyball. Ça, c'est pas vraiment... Bon, son grand-père a perdu la vue suite à l'utilisation de produits chimiques dangereux dans une ferme collective soviétique. Ouais. Ce qui a renforcé son intérêt pour l'écologie. Ah, d'accord. C'est intéressant, ça. Il y a un fait marquant dans l'histoire personnelle du président qui l'a conduit à devenir écolo. Ouais. On ne devient pas écolo sans raison, quoi. Mm-hmm. Vaccination. Seuls 49% de la population adulte est vaccinée contre la Covid-19. Ah ben voilà, on y vient. Ça reconfine. Il y a peut-être un lien de causalité. Hein. Enfin, je dis ça, mais je suis pas sûr. Je veux pas me fâcher et avec les lesbiennes et avec les antivax. Manquerait plus que les laitons aiment pas la chronique. Agriculture. L'agriculture de la Lettonie est marquée par le poids de l'élevage et de la production laitière.
Tu veux
les
juste
principales cultures du pays.
Alexis.
Le blé, le seigle. Mais après, la fiche est pas très longue. Non. La pomme de terre et la betterave.
Je pense que je vais me lever de frapper, là.
C'est une belle fin, la betterave. Alors, ah si. On confond souvent la Lettonie et la Lituanie. Ah oui, c'est vrai. Alors, la Lituanie. La
Lituanie est un pays. Allez,
j'arrête.
Merci. Alexis Lorenzi. Passé, hein.
Ou pas, hein,
ouais, Chanteur sans frontières, un peu
moins, oui, l'Éthiopie va mieux depuis.
Grâce à toi, tu veux dire?
Non, pas depuis ça.
La Lituanie, je suis pas sûr, par contre.
Ah, ouais, là, ils ont pris une belle balle dans le cul, hein.
Et bah alors?
Qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe ce matin?
Je sais pas, il y a une espèce de lâcher prise. C'est la fin. En même temps, on est en juin, c'est la fin de la saison. L'été, on s'en va, c'est tranquille. On se retrouvera peut-être en septembre ou pas.
Ah bon?
On verra ce qui se passe. Pour l'instant, nous allons accueillir dans quelques instants Bruno de Ruisseau, critique cinéma aux Inrocks, pour parler de cette tendance de l'adaptation des grands romans entre Balzac au cinéma, Zola à la télé. Ouais, exactement. Mais d'abord, la musique dans la vie d'Alix Poisson et Thierry Godard. On va commencer dans les années 2000 avec Alix Poisson qui écoutait... Ça, c'est pour faire les... la gym le matin, c'est...
Pas du tout. Non, non, pas du tout. Je l'ai mis parce que quand vous avez mis, c'était les années 2000, c'est ça ?
Ouais, c'est ça, début années 2000.
Ouais, donc c'était quand j'étais à l'école de théâtre et en fait, j'ai souvenir, j'étais en coloc avec une très très bonne amie que je salue, qui s'appelle Maude. Et on était, j'avais une autre copine, Émilie, je les embrasse. Et on faisait des très, on avait un appartement et on faisait des très très chouettes fêtes.
Oh là là, je veux des taufes, je veux.
Et
des...
en général, ça se terminait assez invariablement par ce morceau.
Aïe, aïe, aïe.
Où tout le monde tapait très très fort du pied, très très fort.
On était les voisins, sympa. Étage.
Non mais c'était fou, maintenant quand j'y repense, je pense qu'on avait les meilleurs voisins du monde. Et un jour, ma pote Émilie avait des talons, des vraiment beaux talons de 8-10 cm et on a tellement dansé en tapant des pieds sur Kalachnikov
qu'elle les a cassés.
Elle a percé le parquet.
Alors soit elle avait des talons très résistants, soit le parquet était défectueux.
Le parquet n'était pas très en forme, ouais. Mais on a tapé très fort très longtemps.
Et c'est quand même. Enfin, les talons très résistants et, ouais. Et aiguilles surtout.
Non mais Woody Woodpecker.
Ouais, ah bah ouais, c'était. Non mais c'était vraiment. Je l'ai mis parce que j'ai un souvenir vraiment.
C'est la BO du film de.
De Underground.
Ouais.
Oui, bien sûr.
Et dans ces années-là, Alix, après 2 années de classe prépa littéraire, vous vous inscrivez dans une école de théâtre et à un moment, vous décidez que ça sera votre métier. Mais ça met un petit peu de temps, ce déclic, pour se dire... je crois qu'une copine vous croise et vous dit, mais...
Oui,
c'est ça ton métier.
Ouais, parce qu'en fait, comme je dis souvent, en fait, je crois que je le savais depuis que j'avais 4 ou 5 ans, mais sauf que bon, je sais pas, c'était un peu compliqué, puis je sais pas,
pourquoi
dans ma famille,
compliqué
tout ça, parce que comme je crois que c'est le cas de pas mal d'acteurs, moi je venais d'une famille où personne faisait ça et où c'était, enfin, pour moi c'était complètement inaccessible, en fait, ça n'existait pas, c'était pas un vrai métier, enfin,
Il y a quoi? Il y a un sentiment d'usurpation de se dire pourquoi moi, qui suis-je pour être actrice aussi ou pas?
Ça, je sais pas, mais en tout cas, ça me paraissait vraiment très, c'était un peu comme si on m'avait dit c'est possible d'être astronaute, quoi. Enfin, il y avait un truc où c'était pas possible. Et du coup, bah, j'aimais faire des études, j'aimais les lettres. Donc, j'ai dit, bon, je vais faire une prépa. Sauf que tout à coup, dans cette prépa, j'étais tellement malheureuse que j'étais dans un foyer de jeunes filles pour habiter à Paris. On était à Montparnasse. Donc, je passais ma vie dans les théâtres à Montparnasse. Et donc, je crois que j'ai vu, je sais pas, 5 ou 6 fois Qui a peur de Virginia Woolf avec Nils Arestrup et Catherine Arditi. Et puis, je rentrais dans un état de dépression avancée. Et donc, j'ai une amie que je remercie encore aujourd'hui qui m'a regardée mais comme si c'était une évidence et qui m'a dit mais en fait c'est quoi le problème, enfin pourquoi tu le fais
pas, vas-y
quoi, pourquoi t'essayes pas. Et en fait, tout à coup, c'était comme si, c'est toujours pareil, c'est quelqu'un, on revient au chaman, hein, c'est quelqu'un qui change votre prisme, et tout à coup, vous vous dites, mais oui, en fait, pourquoi ça serait forcément impossible et difficile? Et c'est là où j'ai pris la décision de m'inscrire à l'école Claude Mathieu,
Thierry Godard, vous écoutiez Why Do I Cry? Qu'est-ce qu'elle évoque cette musique pour vous?
Pareil, c'est des fêtes. J'habitais
juste en dessous de chez Alix.
J'avais des étudiantes qui m'ont percé le plancher.
Un jour, il y a un talon qui est passé comme ça. Une espèce de connasse.
Mais qui depuis est devenue ta femme? Le truc qui n'a plus aucun sens.
Non, c'est pareil. J'habitais rue Ticketon et c'était des fêtes à fond avec les Remains. C'est un groupe que j'aimais beaucoup. Au garage band, j'écoutais plein de garage band et les flics venaient tout le temps. C'était un...
Les flics?
Ouais, parce qu'on mettait très fort.
J'avais compris les filles, moi.
Ouais, moi aussi, ouais.
Ouais, non, il n'y a pas de filles, on mettait que des mecs, nous.
Ah oui? Ouais. On aurait dû faire des fêtes. Wow. Parce que moi, il n'y avait que des filles.
Non, non, les filles n'étaient pas les bienvenues.
Les flics venaient vous dire baisser le son, les voisins
se faisaient danser.
C'est ça.
Ouais, non, on avait les flics tous les soirs, pratiquement.
Quoi. Ah ouais?
C'était des grosses fêtes, ouais.
Et à cette époque-là, Thierry, on vous voit. Enfin, on voit votre bras. Dans Femme Fatale de Brian De Palma.
Et c'est déjà pas mal.
Et c'est déjà super. Tout le monde n'a pas ça dans son CV, Thierry.
C'est vrai.
Et voilà.
Moi, c'est ce que j'ai préféré dans le film de De Palma.
Ah ouais. Super souvenir, parce que j'étais à côté de. C'est comment il s'appelait cet acteur?
Antonio Banderas.
Et qui. Alors, on attendait au même endroit, tu sais. On a pris 3 jours à tourner une scène
Il y a un pointeur français qui s'est fait virer, puis il y a eu un flou à un moment donné, il y a eu une grève.
Il faut expliquer que le pointeur français, parce que pointer n'a pas le même sens au endroit où ça se passe.
Oui.
Le pointeur, c'est celui qui règle la caméra, qui règle le
qui fait le point à l'image.
Qui fait, voilà,
point.
Le point à l'image.
Le point à l'image.
Mais là, n'empêche pas l'autre.
Et Banderas regardait. Donc moi, je faisais le bras, et effectivement, je lui amenais son café. Et Banderas regardait un bouquin avec plein de baraques. D'architectes magnifiques.
Un catalogue.
Il hésitait sur la maison qu'il allait s'acheter à Los Angeles et tout. Je disais, putain, je suis loin encore.
mais comment on est casté pour un bras?
Non. En fait, je faisais le serveur qui emmenait le café au moment où le mariage sortait, où la voiture arrivait, où le couple. En fait, j'avais une responsabilité énorme. Il fallait que le café arrive au bon moment, si tu veux.
Dans un petit balai, quoi.
Balai comme ça, mais voilà.
Dans un plan séquence de 45 minutes.
Voilà,
le mec, il se plante sur le café, il fout tout en l'air.
Voilà. Il y avait Brian De Palma qui était là. Et à un moment, j'ai voulu aller voir derrière le combo. Je me suis fait virer. T'as pas le droit d'aller au combo. Et voilà.
Il faut préciser que le combo est un écran sur lequel on peut voir.
On peut voir une boisson exotique.
Et vous avez aussi fait des sortes de sketchs pour Skyrock.
Quoi?
Ah, c'était Skyrock. Oui. Ah, ça, c'était incroyable. Ouais.
Alors, en fait, en gros,
vous avez toujours été en ébriété ou pas, Thierry Godard?
En fait, je faisais des faux intervenants pour Skyrock. Tu sais, style, ils appelaient un vétérinaire, disaient, le mec disait, j'ai un crocodile à la maison qui a une cystite.
Oui, c'est Sky, on les reconnaît.
Mais moi, je savais pas que c'était bidonné.
C'est bidonné complètement.
Tout est bidonné.
Et moi, je disais non. Alors, au début, c'était crescendo en fait. Au début, je disais non. Je suis désolé, je fais pas les crocodiles.
Non.
Le mec rappelait une deuxième fois, et je commençais à m'énerver. Et il voulait que je sois très vulgaire. Donc entre les prises, il me disait tu peux être un peu plus vulgaire encore. Et en général, ça m'arrive. J'étais en voiture, je me garais sur un parking et je faisais mon truc tout seul dans ma bagnole.
Ce qui est drôle, c'est de voir la tête de Leïla qui découvre que les appels sur les FM,
moi aussi, c'est bidonné.
Est-ce que Jean-Yves Lafesse, c'est bidonné ou pas?
Bien sûr, c'est bidonné.
Mais non, peut-être pas Jean-Yves Lafesse.
Le téléphone sonne sur Inter.
Mais c'est comme
le.
Tout est bidonné. Faut juste que je te raconte un truc. C'est que moi,
le jeu des 1000 francs, c'est bidonné.
C'est bidonné.
En fait, c'est 100 francs.
La bande originale, avec Soisson, c'est bidonné. Thierry Godard aussi. Quand j'ai débarqué sur une FM pour faire de la radio avec Manu Lévy, le premier jour, je dis
Europe 2.
On va prendre, oui, exact, Europe 2. On va prendre des appels au standard. Il me fait non, laisse tomber. On va prendre des appels au standard. C'est la standardiste qui va répondre quand on va l'appeler.
Je me suis avoir des années en fait.
Non,
j'ai un copain qui m'a appelé juste après, il me dit je t'ai reconnu, c'est pas vrai, c'est bidonné.
Précisons une chose quand même, les jeux ne sont pas bidonnés quand il y a des trucs à gagner, des cadeaux, des appels, des machins. Oui, mais après. Mais
c'est toujours les potes qui gagnent.
On va appeler une boulangerie ou on va appeler machin pour demander si. Ouais. Là, c'est des sketchs quoi en fait.
Non, mais je suis
désolé. Et c'est des sketchs avec
je me souviens surtout des grands moments de solitude, tu sais, à un moment j'étais garé sur un parking dans le 93. Et il y avait des petits gitans qui me regardaient dans ma bagnole en train de m'énerver au téléphone. Et je me suis dit, waouh.
Cette vie est improbable.
Donc vous étiez quoi, payé en cachet?
J'étais payé, je me rappelle, c'était 60 balles, je m'en souviens.
Mais à partir de quel moment vous êtes senti acteur, comédien? Parce que est-ce que c'est pareil, c'est un copain, une copine qui vous a dit pourquoi pas, vas-y, tu aimes ça, t'es capable de ça?
Non, il y a un moment j'apprenais l'ébénisterie dans un lycée technique et c'est un copain qui m'a dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Alors, ça m'a étonné parce que j'étais en bleu. J'étais ébéniste en fait.
A priori.
Il me dit c'est de la merde, fais chier, moi j'ai envie d'être acteur, tu gagnes plein de pognon. Ah, j'ai dit ah bon? Et on va à la petite librairie, les bibliothèques du lycée, et on commence à lire des classiques, et lui, ça le fait chier au bout de deux minutes. Et moi, tu sais, j'ai accroché, et après, c'est devenu, j'avais 17 ans, et c'est devenu.
Quel enchaînement formidable, puisque Bruno De Russo est avec nous, bonjour. Vous êtes critique cinéma au Zinroc. On parle des classiques que l'on découvre quand on est au Bahut en se disant il y a des histoires formidables. Et c'est vrai que la première chose qui est importante quand on est actrice ou acteur, ce sont les histoires, ce qu'on raconte. C'est ça le propre quand même de la fiction. C'est peut-être d'ailleurs, et c'est ça ma question, est-ce que c'est ce qui manque, les scénaristes, ceux qui écrivent des histoires, pour qu'on se replonge et qu'on se raccroche comme ça à des grands classiques?
Je pense que le cinéma est une industrie hyper coûteuse, ça rassure beaucoup à la fois ceux qui investissent de l'argent, ça amène toute une structure en termes de récit, en termes de personnages qui rassure énormément. Après, si le cinéaste ne s'en empare pas et n'en délivre pas une version personnelle, ça sent la recette. Et c'est ça aussi la limite de ce type de modèle-là, qui a été énormément vraiment critiqué, notamment notamment pendant la Nouvelle Vague par François Truffaut. Voilà, cette attaque de la tyrannie de la littérature sur le cinéma.
Que disait Truffaut? Qu'il fallait pas adapter de romans.
Il disait que la tendance dans son texte du Cahier du cinéma en 1952 disait ce qui s'appelait une certaine tendance du cinéma français. Il disait que le défaut du cinéma français, c'était de trop se reposer sur la littérature et de pas assez faire confiance à la mise en scène.
D'accord, mais alors, sauf que ça prouve que donc c'est pas nouveau aujourd'hui ce réflexe-là. Et puis non. On peut pas en vouloir à des réalisateurs ou à des producteurs de s'intéresser à l'écriture la qualité d'un roman.
Non, c'est pas du tout nouveau. Ouais. Dès ses origines, dès 1902 avec Le Voyage dans la Lune de Méliès, le cinéma a adapté de grands ouvrages de la littérature. Donc on peut pas du tout en vouloir et ça a aussi donné de très grands films. Souvent d'ailleurs des œuvres de la littérature de genre. Enfin par exemple le Silence des Agneaux, Le Seigneur des Anneaux, Blade Runner, Apocalypse Now, qui sont des livres, des romans de genre qui ont donné de très grands films.
Dune.
Il y en a Dune également aussi. Bon,
plus ou moins, voilà.
Un sur deux.
Voilà.
sur la littérature vraiment classique, ouais. On peut citer par exemple Le Journal d'un curé de campagne de Bresson, La Captive de Chantal Akerman, mais on va dire que c'est plus rare que de très grands romans donnent de très grands films. C'est plus difficile.
Alors, est-ce qu'il y a des grands films issus de romans qui était moyen, mauvais ou qui n'avait pas spécialement réussi? Et à la limite, est-ce que c'est le film a redonné ses lettres de noblesse ou le succès au roman? Est-ce que ça marche dans le sens inverse?
Alors comme ça, j'ai pas d'exemple.
Bravo.
Si quelqu'un en a autour de la table.
Non, c'est compliqué.
Mais c'est vrai que c'est compliqué. Non,
c'est compliqué, oui. C'est-à-dire donc c'est généralement des. Alors, et à l'inverse, de très bons romans ne donnent pas forcément de bons films. Tu avais l'air de vouloir dire
beaucoup de films. En plus, si les romans sont très mauvais, on se souvient même pas que les films en sont des adaptations.
Ouais. Et puis en télé aussi. En télé.
37.2. Oui, 37.2. Philippe Djian à ce micro nous avait dit que le succès de 37.2 c'était le travail de Benex, ouais. Il le reconnaissait, alors qu'il en est, qu'il est l'auteur du roman. Est-ce que là, il se trouve qu'on est dans une espèce d'embouteillage entre les différentes adaptations en ce moment, mais en même temps, c'est un embouteillage dans les sorties, dans les diffusions. Ouais. J'imagine que le Covid a dû retarder le tournage. Même Thierry, vous l'avez chopé en plus.
A priori, oui.
Je pense que c'est la blague qu'il a le plus fait sur le tournage de Germinal. Il arrivait tous les matins en disant, je sais pas ce que j'ai plus d'odorat, mais je sais pas.
Mais vous l'avez eu ou pas le Covid?
Première fois, tu fais un peu
Voilà, donc mais il l'a vraiment eu.
Ah, j'ai vraiment eu.
Bien sûr, il l'a eu sur le tournage.
Ouais.
Et donc suspension du tournage, comment ça se passe?
Ah bah mais pas que moi, on était une dizaine.
Oui, cinq, et puis après.
Ouais, t'as qu'à balancer les autres pour me dire aussi.
Il y a
pas que moi.
J'ai pas le nom, mais il y a le Real.
Il y a eu un petit groupe, ouais. On s'est arrêté, ouais.
Et ton Québec, gros Covid, hein, je crois que c'est lui qui a balancé. C'est ça. On disait tout à l'heure.
C'est Godzilla, moi.
On s'est arrêté un petit temps.
Sur Harry Potter, par exemple, la saga Harry Potter. Et je me rends pas compte d'ailleurs s'il y a des grosses différences entre les livres et les films.
C'est assez fidèle, Harry
Potter. C'est assez fidèle, mais de toute façon, j'ai l'impression que de toute façon, le fait d'adapter implique de toute façon une trahison, puisqu'on passe déjà de l'écrit à l'image. C'est impossible d'adapter absolument tout. Il faut forcément trahir, interpréter, réorganiser. Donc, de toute façon, il y a une dimension de trahison, et c'est même très important.
Moi, j'ai un copain qui m'a dit, plus le roman est mauvais, plus tu fais une belle adaptation.
Il y a plus de liberté, peut-être. C'est aussi peut-être pour ça que c'est difficile d'adapter de grands auteurs, parce qu'on peut être intimidé. Ouais.
Non, mais Giannoli a réussi avec Illusion perdue, et il a choisi la deuxième partie du roman. Pour le coup, il n'a pas tout adapté parce que
Dune,
c'est pas possible.
Et Dune aussi. Il savait très bien qu'il ne fallait pas faire l'intégralité.
Il faut choisir.
Sinon,
ouais.
Vous avez fait tous les deux, visiblement, le travail de relire Germinal.
La littérature qu'il a fait.
Vous avez revu le film de Berry?
J'ai revu le film. Moi, je l'avais lu jeune, Germinal. C'était pas mon préféré, d'ailleurs.
Okay.
Et non, j'ai voulu que le scénario. Parce que après, t'es toujours frustré après dans une adaptation pour un acteur. Tu te dis, tiens, pourquoi il n'a pas mis ça? Mais je voulais faire confiance au scénario, point barre. Voilà.
Et vous, Alix, vous avez relu ou pas Germinal?
Oui, d'abord je voudrais dire, j'ai dit une connerie, j'ai dit Jean-Marc Vallée, c'est Denis Villeneuve bien sûr qui a fait Dune, autant pour moi.
Il était canadien.
Parce que j'ai une passion pour Denis Villeneuve, donc on sait jamais.
Ok, d'accord.
Qui vient d'être coupé, a priori, hein. Ce qui vient de couper sa radio.
C'est un pilote de femme, merde.
Non, mais c'est vrai, c'est un peu con. Oui, non, je l'ai relu, mais plus pour voir, parce que je pense que justement c'est le propre des grandes œuvres, c'est-à-dire que quand tu le lis à 15 ans, c'est pas pareil qu'à 25 ou à 35, et que c'est des sortes de palim obsessed et tu découvres des choses à chaque fois.
Bruno de Russo, avant de vous quitter, est-ce qu'il y a des adaptations dont on attend, des grandes adaptations, des grands romans dont on attend la sortie?
Oui, il y a les trois auteurs les plus adaptés qui sont Shakespeare, Alexandre Dumas et Stephen King. On va encore avoir droit à des adaptations de ces auteurs-là dans les prochaines années. Il y a les trois mousquetaires. Les trois mousquetaires de Martin Bourboulon, film français extrêmement cher qui va sortir en 2023. Il y a le Macbeth de Joël Cohen qui sera un des favoris pour les Oscars. Il y a l'événement d'Audrey Diwan, adapté d'Annie Ernaux. Les choses humaines.
Qu'il est favori pour les Oscars, il est même pas sorti le film.
Bah, c'est dans
les
bookmakers.
Enregistré les Oscars déjà.
Exactement.
Tout est faux.
Et moi, je viens de tourner Madame Bovary aussi.
Ah ouais.
Et c'est vous?
Oui,
c'est moderne.
Upgradé au transgenre. À un moment,
il faut y aller. Quoi.
Et à quand le Comte de Monte Cristo?
Oui, à quand?
Pour le coup, l'adaptation télé avait été mais sublime.
Ou la Bête humaine, tiens, on parlait aussi.
Bah, il y a des. C'est déjà
chez Zola, il y a un paquet.
Pardon.
Renoir,
moi, je suis pas très Zola.
Martine à la place.
Merci beaucoup, Bruno. Merci, Bruno Grosso. Je rappelle, critique cinéma aux Un Rock. Voici Tom Villa avec ses prix d'assaut. On déplaise à Fanny Rivet.
Comme chaque année, des sujets reviennent, tels des boomerangs, et dans la catégorie du marronnier de la semaine, les nommés sont. Premier nommé, l'élection de Miss France dénoncée par les féministes, un peu comme tous les ans. Cette fois-ci, c'est l'association Oser le Féminisme qui attaque en justice la société Miss France. J'ai plein de très bonnes vannes que mon avocate est en train d'étudier. Deuxième nommé, l'essence dont le prix ne cesse jamais d'augmenter. La dernière augmentation, c'était il y a 3 ans et ça avait débouché sur le mouvement des gilets jaunes. C'est vrai qu'on savait plus comment occuper nos samedis. Merci, Président. Troisième et dernier nommé, Astérix, qui voit un nouvel album de ses aventures sortir depuis hier. Astérix, c'est le griffon. Alors un griffon, qu'est-ce que c'est? C'est un corps arrière de lion avec des pattes avant et une tête d'aigle et des oreilles de cheval. Donc attention, voilà, si Obélix le bouffe, on saura comment il a chopé le Covid -38. Et le grand gagnant dans la catégorie du marronnier de la semaine.
Miss France, si tu as reçu l'autorisation de ton avocate.
Ouais, les Miss France attaquées par les féministes. Ouais. Vous le voyez, le sac de nœuds, là, ou pas? Donc là, c'est plus une chronique, c'est un slalom géant.
Débrouille-toi.
Alors, comment éviter de passer pour un réac ou un macho? En plus, je suis un homme, donc là, c'est vrai que sur le papier, c'est pas vraiment mon sujet. Bon, après, je pense qu'il faut qu'on arrête de dire aussi qu'on a le droit de défendre que les causes où on est touché directement, parce que, en tout cas, moi, j'ai jamais vu un sanglier, une manif anti-chasse avec une pancarte autour du cou, arrêter de nous tirer des balles dans le cul. Non, c'est vrai, de toute façon, je sais pas ce que c'est que d'être une femme, mais bon, j'ai une sensibilité, j'ai une mère, j'ai une sœur, j'ai une femme. Pardon, je me suis un peu merdé sur l'intention de et la ponctuation, pardon, je corrige. J'ai une mère, une sœur et une femme qui me disent de toute façon tu sais pas ce que c'est que d'être une femme, voilà, c'était ça l'idée. L'association reproche à Miss France d'avoir des critères très stricts, entre autres être âgée entre 18 et 24 ans, t'as minimum 1m70 en talons, célibataire, et ne pas avoir fait l'objet de poursuites ou de condamnations judiciaires. Donc je trouve ça dégueulasse, Isabelle Balkany.
C'est dommage que ça soit pas pareil pour les politiques.
Ben ouais, Balkany écoche aucune case dans ce que je viens de dire, c'est hyper discriminant pour elle. Mais bon, dans toutes les émissions de télé, il y a des critères. Par exemple, quand la prod de Fort Boyard, ils mettent une petite annonce, cherche assistant du père Foura, 1m12 maximum, rôle muet, coupe mulet, porte des clés, bon bah c'est aussi des critères. L'amour est dans le pré, on demande aux gens d'être paysans et célibataires, sinon ça marche pas. Pour faire les Marseillais contre le reste du monde, il faut un accent marseillais et pas le bac, et t'es pris. À France Inter, il faut être belge et de gauche, sauf pour Pasturo. Mais bon, je comprends parfaitement que certaines femmes peuvent être frustrées, tu fais 1m68, il te manque 2 cm, je comprends. Non mais franchement, je comprends parfaitement la démarche d'oser le féminisme, d'ouvrir les critères, et puis surtout, il faut aussi payer les prétendantes, c'est vrai, parce que sincèrement, mettez-vous à la place de toutes ces filles, chaque année, qui sont pas élues Miss France, pas payées, et en plus, elles sont obligées de se balader avec une écharpe du Limousin pendant 1 an. Je comprends la démarche. Et en même temps, c'est vrai que moi, si j'attaquais Mister France parce qu'il m'accepte pas au concours, bah, je passerais juste pour un mec aigri. Donc, comme j'ai envie de me fâcher avec personne, et je préfère rester neutre, voici les pour et les contre, l'élection Miss France, et vous ferez votre propre avis après. Alors, contre l'élection Miss France, évidemment, mais quel est l'intérêt pour Miss Tahiti de quitter des eaux turquoises pour passer 1 an dans des foires à la saucisse? On sait pas. Moi, je suis contre aussi Miss France pour la simple et bonne raison raison que je trouve ça dégueulasse pour les gens nuls en géo comme moi, qui chaque année réalisent qu'ils peuvent à peine placer la moitié des mises sur une carte de France. Je trouve ça aussi dégueulasse pour toutes ces femmes qui faisaient de belles études supérieures et qu'on coupe en plein vol pour les, leur permettre de faire quoi? Au mieux danser avec les stars et de perdre contre Jérémy Crédville. Pour Miss France, en revanche, c'est quand même super pour la gagnante d'avoir une couronne de princesse sans devoir coucher avec le prince Charles ou le prince de Monaco. C'est aussi la seule occasion pour Miss Picardie d'enfiler un maillot de bain. Ça fait aussi plaisir de savoir que Jean-Pierre Foucault est toujours vivant. Et pour conclure, évidemment, pour Miss France, parce que c'est la seule élection nationale où à la fin, bah, c'est une femme qui est élue.
Merci. Alix Poisson et Thierry Godard sont nos invités jusqu'à midi et demi. Tanguy Passureau, de quoi vas-tu parler après les infos?
Je vais vous parler du concept d'appropriation culturelle, mais aussi de Kanye West.
Quoi? Fort décalé, il n'a pas le sens du rythme, Daniel.
Ça fait un peu la vie.
Je fais un pas.
C'est l'heure originale, soyez les bienvenus avec Léa Cadence de Lévis, Morgane Cadignan, Alexis Le Rossignol, Dom Villa, Tanguy Passureau, Daniel Morin et mes invités, Alix Poisson et Thierry Godard. Nous parlons de Germinal, cette série, 6 fois 52 minutes, tous les mercredis, à partir de mercredi prochain, 27 octobre, 21h. Deux épisodes chaque mercredi, d'après évidemment le roman d'Émile Zola, mais avec cette vision, d'abord la modernité de la réalisation de David Oreg, et puis cette vision du scénario de Julien Lilti, en remettant peut-être au même niveau, aussi bien l'intrigue ouvrière que l'intrigue familiale, que la montée ou la libération des femmes. Tout ça est extrêmement bien incarné et porté par nos invités, mais aussi Louis Pérez, Guillaume de Tonquédec, Natacha Ledinger, Samy Boisgila, Jonas Bloquet, Rose-Marie Perrault. On va continuer d'en parler avec vous.
Vincent Deniard,
Max Bessette de Malglaive, Guillaume Arnault,
ah non, mais
Steve Tienche.
Mais le problème, c'est que vous êtes trop nombreux.
Mais oui, non, mais c'est bah oui, il y a du monde.
Non, non, il y a 20 rôles principaux.
Il y a du monde.
Ouais. Et puis alors, tourner dans les mines désaffectées du nord de la France, il y a plus de charbon. Il paraît que vous avez fait venir, la production a fait venir du charbon de Pologne.
Mais oui, c'est marrant, tout le monde nous parle de ce truc.
Je trouve ça dingue de tourner dans des mines et de dire, il y a pas de charbon.
Ben non, il y a plus de charbon parce que Dieu merci, on ne se sert plus du charbon.
Oui. Et puis certains filons étaient épuisés aussi.
22 tonnes de charbon achetées en Pologne.
Ben oui, parce qu'il faut.
Pour 5 euros, c'est cool.
Et même la boue. Et même de la boue achetée aussi pour rejouer la rue principale.
Ouais. Après la boue, ça allait, ça se faisait bien tout seul. C'était hiver et il pleuvait, donc je peux vous dire qu'au niveau de la boue, on en avait jusqu'aux genoux.
Transformation de 1200 m² de sol extérieur mine pour le rendre identique à 1880. Remise en état parce qu'après, il faut nettoyer tout ça après le tournage.
C'est Alexis Le Rossignol qui a fait les fiches ou comment ça se passe?
C'est Wikipédia.
Et entre 80, et on va leur rendre hommage parce qu'ils étaient vraiment extraordinaires, on avait, je crois, entre 80 et 110 figurants. Qui étaient toujours les mêmes. David avait tenu à ce que ce soit toujours les mêmes figurants qui soient avec nous du début à la fin.
Il y en a eu 2500.
Il y avait 2500 figurants au total et 110 techniciens.
Oui, mais après, on a 2500 figurants dans une scène.
Non, je parlais en tout.
Je veux dire, c'est
après, il y en a eu
on a eu des scènes où on avait les 100 mêmes personnes et c'était hyper émouvant parce que certains avaient un père, un grand-père, un oncle qui avait été mineur.
Concerné par cette histoire, en fait.
Ils étaient hyper ému de tourner ça, quoi.
Germinal, à partir de ce mercredi sur France 2, 21h, deux épisodes par mercredi. Tout de suite, voici Tanguy Passureau.
C'est génial d'être une star. Enfin, j'en sais rien, mais il paraît. Oui, parce qu'on peut changer de nom. Moi, j'y ai pensé, parce que Tanguy Passureau, c'est un nom sympa quand dans le Finistère, on a ouvert une petite PME dans l'import-export vers le Morbihan. Mais ça fait pas rêver. Imaginez, je me lance dans le hip-hop. Qu'est-ce qu'il dira Fred de Skyrock le jour où je ferai mon planète rap? Ce soir, on accueille Caris, Nekfeu, La Fouine pour son comeback, Attic et Tanguy Passureau. Enfin, même si je fais le plus puissant des freestyles avec 14 métaphores et une allusion à la mère de chacun des participants, je serai pas crédible. Un nom, c'est une prison. Prenez Xavier Dupont de Ligonnès. S'il veut revenir et qu'il dit pardon, autant pour moi, j'avais pas trop le sens de la famille, mais depuis, j'ai vu This Is Us. Et j'ai changé de perspective. Allez, on efface tout, je m'appelle Martin Sanchez. Et bah, le juge lui dira oui, mais non. Et il pourra jamais refaire sa vie. Alors que changer de nom pour une star, c'est courant. Cassius Clay est devenu Mohamed Ali. C'est le seul à avoir changé pour un nom où tu rentres plus en boîte. Bruno Mars. Il s'appelle pas Bruno Mars. Son vrai nom, c'est Jean-Michel Décembre. Mais il préférait Mars. Début de printemps, ça colle mieux avec ses musiques lumineuses.
Non.
Vin Diesel, l'acteur, en réalité, s'appelle Mark Vincent. Mais ado, c'est véridique, ses amis le surnommaient Diesel parce qu'il débordait d'énergie. Alors moi, je l'aurais plutôt surnommé Gilou sans plomb, parce qu'il y a quand même plus de reprises, mais bon. Moi, si j'avais pu, je me serais appelé Alexis le Rossignol. Mais c'était déjà pris. Ça, ça claque, quoi. En plus, le Rossignol, c'est en 2022, c'est Yannick Jadot qui passe, ça deviendra l'humoriste officiel du pouvoir. Hein, tous les gens qui ont des noms d'animaux seront décorés de la Légion d'honneur dès le premier jour de mandat. Ah, Alex Poisson, ça sent bon. Alexis le Rossignol, Alexis le Rossignol, quel nom quoi. Hein, c'est le Jack Sparrow français quoi. Seulement, tout le monde n'a pas la chance de s'appeler Alexis le Rossignol. Tenez, Kanye West, en voilà un blaze minable. On a l'impression qu'il s'agit d'une gamme de boussoles à nature et découverte. Donc il a demandé à changer de nom, parce qu'il est moins stable psychologiquement qu'Ariel Dombal si elle avait bouffé un cake au shit. Hein, dans la tête de Kanye West, il y a tous les ex-animaux de cirque au chômage qui tournent dans des roues en hurlant. Donc le juge à Los Angeles lui a dit « Ok, mais comment voulez-vous vous appeler ?» Kanye West a répondu « Yé ». Le juge a dit « À tes souhaits, vieille branche, j'espère que c'est pas le Covid ». Kanye West a dit « Non, je veux m'appeler Yé ». Pas Kanye, pas West, juste Yé. C'était déjà son surnom, mais il a voulu le faire passer officiellement à l'état civil. C'est comme si Daniel Morin décidait de s'appeler « Mon gros loulou » juste parce qu'une fois j'ai voulu être gentil avec lui. Et comme c'est une star, pas Daniel Morin, Yé, le juge a validé le délire. Alors que n'importe quel anonyme qui voudrait s'appeler « Hey, paf !» ou « Blablabla », eh ben, ça serait retoqué. Hein, donc il s'appelle Yé. Voilà, espérons que ça le rende plus serein, parce qu'il vit des moments difficiles. Il est en instance de divorce avec sa femme, Kim Kardashian. Il se partage tout à 50-50. Il prend son premier gosse, Northwest. Yé, bah, donc, prend le GPS, donc ça revient au même. Kim lui a donné un peu de ses fesses parce qu'elle en a trop. À moins de s'asseoir 1400 fois par jour, ça ne sert à rien. Enfin bref, le seul souci quand on s'appelle Yé, c'est au téléphone. Vous appelez Julien Courbet parce que votre voisin a taillé la haie, ses parents les deux jardins, n'importe comment, à tel point qu'on dirait des propos de Ségolène Royal. Bon bah, si Courbet vous demande votre nom, que vous répondez Yé, il se met à crier « Ah, mais par le pull en cachemire de Nicolas de Taverneau, je crois qu'on a en ligne quelqu'un qui est en train de faire un AVC. » Donc, aux États-Unis, on a Yé, et en France, on a fait y avoir Raïm. Vous vous souvenez de Christine and the Queens, la chanteuse à la voix d'or?
Oui.
Il y a quelques années, elle s'est rebaptisée Chris. La logique aurait voulu qu'ensuite, elle s'appelle Cri, puis Cripis. Et enfin, eh bien non. La semaine dernière, sur ses réseaux, elle décide de s'appeler Raïm. L'un des 99 noms d'Allah, dit-elle. 99 noms. Moi qui ai trois prénoms, quand je dois les écrire sur un formulaire, je suis déjà claqué. Donc là, chapeau. Enfin, je comprends mieux pourquoi on dit qu'il est grand. Or, Chris est une star. Donc, comme y est, en théorie, elle peut tout faire. Sauf que là, plein de gens sur le net lui sont tombés dessus en l'accusant d'appropriation culturelle. Ce qui signifie s'accaparer une culture qui n'est pas la sienne à la naissance. Exemple, moi, si je reprends Alpha Blondy sapé en tenue de griot, en disant j'appelle mes frères et sœurs noires à la résistance contre Babylone, on pourra me dire, mec, ne veux-tu pas revenir plutôt au loup, au renard et à la belette? Oui. Hein, et donc, j'espère qu'à l'inverse, si un Ivoirien tente de se mettre à la bombarde, on le sortira du festounose. Hein, en lui disant, c'est de l'appropriation culturelle. Bouge pas, Alan Stivell va te fouetter avec les cordes de sa harpe. Parce que Chris voulait bien faire en s'appelant Raïm. Chris, elle est du côté de tous ceux qui souffre. Un jour, j'ai été salement piqué par un moustique, j'avais mal, et bien j'ai failli la contacter. Alors là, dit la presse, elle voulait marquer son attachement à la communauté musulmane, et bien c'est raté. Voilà, elle peut s'appeler Lucien, si elle veut soutenir les vieux, mais pas Raïm. Donc après, la question est, que fait-on des Rasta blancs? Parce que c'est de l'appropriation culturelle, et ils vont pas avoir l'énergie de se mettre au heavy metal. Bref, sur Twitter, Chris n'est plus Raïm, à la place, elle a mis un point, alors c'est peut-être son nouveau nom, il va falloir l'appeler... Point. Hein, à sa mort, Libé pourra titrer un point, c'est tout. Ils seront super fiers, comme avec toute leur une à la con, là. Et si un jour, le chat de Chris,
pas le jeu de mots.
Le chat de Chris qu'elle a voulu appeler Mamadou, mais accusé d'appropriation culturelle, le félin a repris son nom de Minouchette. Et bien, si un jour le chat marche sur le clavier au moment où Chris est sur modifier le profil, tout le monde va l'appeler B, C, D, F, A, I, point d'exclamation. Voilà. Donc, c'est compliqué. Une fois de plus, aux États-Unis, tout est plus simple. On a Yé.
Merci. Sur cette France, Yé, pas I.
Tanguy, on se retrouve le 4 décembre au Zinga Zanga. C'est à Béziers.
Oui, et cool, j'irai pas.
Et j'ai oublié de dire, pardon, que Tom.
Oh, le regard.
Pourquoi? Mais non, moi j'irai te voir en spectacle. Moi,
Zinga Zanga.
Ça fait boîte.
C'est Zinga Zinga.
Ah, c'est, mais tu as écrit Zinga Zanga.
Ah, c'est ce que
ça fait Berlusconi, quoi.
Ça fait maladie, surtout.
C'est une boîte?
Non, c'est une grosse salle de spectacle à Béziers.
D'accord.
Non,
Zinga Zinga.
Je passe pas encore dans les boîtes.
Zinga Zinga, Tanguy, tu sauras où tu joues du coup. Et voilà. Tom, j'ai oublié de te dire que ce soir, tu joues à Canteleu à côté de Rouen et tous les lundis à la Nouvelle Ève.
J'ai oublié de te dire. Oh merde, c'est une punition.
Il faut que tu ailles.
Je suis désolé si on vous a posé 100 000 fois la question, Alix au Poisson, mais comme on parle des
célibataires,
des pseudonymes de stars, est-ce qu'on vous a suggéré un jour de changer de nom.
Oui, c'était très vexant.
Une agent ou...
Non, c'était une personne du conservatoire. Je ne sais plus trop ce qu'il faisait. Il était... C'était une personne très bienveillante puisqu'il avait commencé par me dire « Bon, de toute façon... Toi, vu comment t'es, tu feras pas les princesses, les reines, tout ça, tu feras les copines. » J'avais trouvé ça hyper sympa. Je me suis dit, mais je ne vois pas pourquoi, en fait. Bah, ça revient un peu à ce qu'on disait sur Miss France, hein. Ouais. Essayons de,
les canons de beauté,
d'ouvrir. Et après, il m'avait dit, mais hyper sérieusement, il m'avait dit, peut-être falloir changer de nom quand même. J'ai dit, ah bon, pourquoi? Et moi qui n'avais aucune confiance en moi à cette période-là, vraiment, qui était, je me rappelle lui avoir répondu, écoutez, Juliette Binoche, on lui a demandé de changer, elle a pas voulu changer, ça lui a pas trop mal réussi. Audrey Tautou, c'était la même chose, apparemment, ça s'est bien passé, je ne changerai pas.
Et voilà. Et pour Godard, jamais?
Non, m'a jamais demandé.
Non. C'était pas mal comme. C'est pas,
non, mais c'est changé.
Ah oui,
ouais, c'est un peu changé, justement. Peu voilà. Changé,
mais ça peut servir.
Mais ça peut servir à rien.
Mais c'est moi.
Non, mais c'est vrai, ouais.
Combien de journalistes vous ont demandé si vous étiez de la même famille?
Ouais, de Jean-René Godard.
Ouais, beaucoup, ouais, Jean-René Godard.
Non, c'est arrivé souvent.
Ouais, ça arrive, ouais, bien sûr.
Plus maintenant?
Non, plus maintenant.
Ça y est, c'est fait. Ouais, c'est Alix Poisson et Thierry Godard sont nos invités pour parler de cette formidable saga Germinal qui passe sur France 2. On va en parler dans quelques instants, mais d'abord, autres événements culturels, Leïla.
On va parler d'un compte Instagram, Yats Story. Que dénonce ce compte?
Yats Story.
Ouais.
Dénonce ce compte.
C'est dans le cinéma et c'est à Hollywood.
La stigmatisation.
Non.
Les vols de scénarios, les histoires volées qui existaient déjà ailleurs. C'est plagiat.
Non.
Transphobie.
Il y a une grève massive qui se prépare.
Ah. Sur le salaire, égalité homme-femme.
Et qui concerne qui?
Les hommes et les femmes.
Bah, j'ai dit homme-femme.
Non.
Alors les femmes et les hommes.
Alors l'inverse, oui.
Non.
Les hommes veulent les mêmes salaires que les femmes.
Il est question de salaire.
Les hommes et les hommes.
Mais
les LGBTQ.
C'est plus global. On parle de
racisme.
Dans Germinal, il y a une forme de.
Les techniciens.
Les figurants.
Ouais, absolument, c'est les techniciens. C'est l'Alliance internationale de la scène de théâtre et de cinéma. Qui s'est réuni sur ce compte Instagram et qui dénonce en fait leurs conditions de travail, pas de temps de repos, des salaires peu viables, plus d'avantages durables. Ils sont 60 000 travailleurs déjà à s'être réunis,
oui,
considérant que l'industrie cinématographique théâtrale aux États-Unis ne correspond plus aux règles traditionnelles et ils veulent revendiquer de meilleures conditions, de meilleurs salaires aussi. Il n'est pas encore question, mais j'imagine indirectement d'égalité, mais ils décrivent vraiment dans des témoignages comment se déroulent les tournages, comment ils sont épuisés, qu'ils en arrivent à déclencher des maladies chroniques liées donc aux conditions de travail. Le cinéma, est-ce que c'est un lieu propice à la lutte des classes? Est-ce que justement on est très collectif dans le cinéma où on redoute de perdre sa place, de ne plus être appelé?
Non, moi je pense que ça m'est arrivé de prendre parti sur un tournage il n'y a pas longtemps.
À quel sujet?
C'était, alors attends, faut que ça me revienne, c'était au niveau des heures sup, parce qu'ils ont fait de plus en plus d'heures sup, parce qu'ils diminuent de plus en plus le temps de tournage. Donc...
Ça concerne les techniciens, pas les acteurs, les heures sup?
Alors les acteurs, on n'a pas d'heures sup.
Ouais, voilà. C'est le cachet.
C'est un forfait, ouais. Mais il y a un moment donné, on prend les gens un peu en otage, quoi, c'est-à-dire que tu fais des 14, 15 heures par jour. Avec des gens par exemple de la régie qui sont pas payés, ils ont pas leurs heures de prépa payées. Il y a certaines corporations où c'est plus les machinaux, les électros, c'est plus organisé.
Oui.
Mais voilà, et avec des stagiaires, je pense qu'un tournage c'est l'exemple des écarts de salaire les plus énormes. Je pense.
Oui, oui, oui.
Donc voilà, tout ça devrait être un peu rebattu.
Un peu aligné, avec des conditions un peu semblables. Alix, vous avez constaté ça aussi sur des tournages, des plaintes peut-être de techniciens ou de membres de l'équipe qui ne jouissent pas d'un même statut.
Elle leur parle pas au petit personnel.
C'est la régie.
Tu te rappelles la non, table régie.
Non, mais c'est
la table régie.
C'est très important. Moi, j'ai jamais été directement confrontée à ça, mais oui, je pense que ça arrive et que est-ce que c'est un lieu propice à, je sais pas, mais il faut que ça le soit.
Oui, mais est-ce que, par exemple, vous, les stars, parce que sur un tournage, il y a quand même une forme de hiérarchie, on parle de salaire notamment, c'est quelque chose qui vous tient à cœur tout d'un coup de se dire, bah, nous aussi, on va mouiller le maillot et on va monter au créneau pour représenter aussi les camarades de tournage, puisque sans eux, il n'y a pas de film. Oui, bien et donc sûr. Sans eux, vous n'existez pas non
sûr.
Plus.
Oui, bien sûr, ça ouais. peut. Bah, ça, notamment, par exemple, comme disait Thierry, sur des trucs de régie où tout à coup, ça engage aussi des problématiques de sécurité.
Ouais.
Et donc, il faut être hyper vigilant.
Il faut aussi souligner qu'il y a une ascension sociale dans le monde du cinéma ou dans le monde du spectacle, parce que beaucoup de régisseurs, beaucoup d'assistants ou de premiers assistants ont fini par être réalisateurs, ont fini par grimper sûr. Aussi dans l'échelle sociale. Donc, c'est vrai que le côté effort d'être stagiaire non rémunéré sur un tournage parce qu'on ne sait pas comment rentrer dans ce métier, il n'y a pas de code.
Tu mises sur l'avenir un peu.
Voilà, c'est ça. Tu dis.
Et du coup, on abuse de toi.
Un peu.
Et voilà.
Un peu.
Forcément, on te fait miroiter que la suite peut être belle.
Ce que je veux dire, c'est pas tout le monde.
Non, mais
c'est un danger.
C'est intéressant de parler un petit peu de solidarité aussi au sein d'un même milieu, de voir ce qu'on est en mesure de faire.
Tu peux pas non plus faire peur aux parents de ceux qui vont être stagiaires sur un film en disant vous allez être exploité. C'est pas le cas forcément partout.
C'est pas leur faire peur, mais c'est de dire que ceux qui sont dans une position un peu plus stable et qui peuvent l'ouvrir, peut-être, peuvent plus soutenir. Facilement remplir.
En cas de problème.
Mais sur Engrenage ou Caroline Proust, c'est une folle furieuse.
pas que sur Engrenage.
Et pas que sur Engrenage. elle prenait parti en permanence. Et ça nous arrivait même pour des stagiaires de se cotiser tous à la fin pour qu'il ait un petit salaire à la fin du tournage. Mmh. Par exemple,
c'est un bon exemple.
C'est un geste supplémentaire. Autre question. Qui sera le héros du prochain film d'Yvan Attal?
Yvan Attal?
Non.
Un animal?
Non. J'ai entendu peut-être.
Ah, son fils, oui.
Ouais, absolument. Je ne sais pas qui a dit son fils.
Daniel.
Toi, Daniel, bravo.
Et on va le recevoir, de toute façon.
Il y aura Charlotte Gainsbourg. Ouais. Il y aura son fils, Ben Attal, qui va incarner un jeune étudiant bourgeois accusé de viol.
On l'avait déjà eu dans Un chien stupide.
Son fils, mais il n'était pas encore accusé de viol.
non, c'est une autre histoire, Leïla. C'est pas le même.
C'était pas la même. Ça va être long, expliquer quand histoire. Même. Ouais, ça va être un peu long. Côté cinéma, on note en ce moment que c'est compliqué de remplir à nouveau les salles de cinéma après cette pandémie, que les habitudes ont peut-être un petit peu évolué. Quel regard vous portez, vous, là-dessus, sur ce retour au cinéma? Ça vous inquiète sur les projets qui peuvent être montés dans l'avenir? Vous en avez des conséquences directes ou pas encore?
Pas encore, parce que bizarrement, tout a repris extrêmement fort. C'est-à-dire qu'en termes de tournage, je pense que ça a rarement autant tourné qu'en ce moment.
Ouais.
Ce qui est assez étonnant d'ailleurs, mais comme il y a une multiplication des supports et une demande croissante, c'est-à-dire qu'il y a le cinéma, il y a la télé, mais en plus il y a toutes les plateformes, et les plateformes c'est exponentiel.
Ouais.
Du coup, de ce côté-là... on n'est pas encore impacté, je trouve, mais ça risque d'arriver.
Ouais. À propos de plateforme, Germinal est déjà sur salto.tv pour ceux qui veulent binger la série avant qu'elle ne passe sur France 2 mercredi prochain. Je voudrais revenir sur le rapport entre Samy Boisgila et Guillaume de Tonquédec, les deux patrons dans l'équipe. Comment définir les personnages de l'un et de l'autre, Thierry?
Bah, ils ont pas les mêmes pressions. Le personnage de Guillaume
il fait partie d'un groupe.
Il dépend d'un groupe, c'est ça. Donc lui, il doit rendre des comptes. À un moment donné, il y a une scène, voilà, où on lui dit, bah écoute, si tu rachètes pas la boîte que tient Samy Boisgila, on te met de côté et on va essayer de la racheter nous. Donc on est dans l'artisanat avec Samy.
Il va pas bien le personnage de Guillaume Tonquédec, hein, entre cocu.
C'est compliqué. Mais il a kiffé à le jouer en tout cas.
Voilà. il est super.
Il est magnifique.
Ouais. Et Samy Boisgila, lui, c'est celui qui se bat seul contre les éléments, qui est surendetté et qui investit dans les machines et surtout qui paye mieux les ouvriers que ne le fait Guillaume Tonquédec.
Oui, mais c'est-à-dire qu'ils ont quand même deux visions très différentes du rapport qu'ils ont à leurs employés, quoi. C'est-à-dire que le personnage de Enbo que joue Tonquédec est dans un truc totalement dominant. Et part du principe que les conditions de vie de ses employés n'ont rien à voir, il a absolument pas à s'en soucier, alors que le personnage de Boisgila est déjà dans une vision plus moderne et plus humaniste, en se disant que justement, s'il y a des bonnes conditions, ils travailleront mieux et qu'ils y attachent une grande importance.
Et tout le monde y gagne au final.
C'est là où Zola était fort, c'est qu'il avait déjà une vision.
C'est la mondialisation.
Voilà, si vous traitez bien les gens, en gros, ça se passe mieux. Quoi.
Ouais. Pour parler de l'avenir, Alix Godard, vous avez...
Alix Godard
Alix Poisson, pardon. Vous avez...
Donc un mariage en vue, apparemment.
Thierry Poisson, comment ça va?
Poisson Godard, oui.
Le colosse au pied d'argile, pardon. Vous l'avez tourné ou vous allez le tourner?
Non, je vais le tourner.
Quant à vous, Thierry Godard, vous êtes cocu.
Bon.
Dans Madame Bovary?
Ah ouais. Mais trois fois cocu.
Vous verrez avec elle.
Hein. Cocu magnifique, ouais.
Et puis, il y a d'autres projets, d'autres envies. Ouais, Jean Jaurès, ça fait partie des personnages que vous aimeriez.
Ouais, j'aimerais bien. Je veux ça. Non, après, il y a des choses, mais pour les plateformes, alors, je peux pas en parler.
D'accord.
C'est
contractuel.
Ah ouais, ça devient fou furieux. Ouais.
Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Bien sûr, déjà désolé pour Madame Godard qui a appris ce matin que son mari avait été astiqué sur le tournage de Germinal.
Pas
de
panique,
pas de panique, c'est Nagui, c'est sa façon d'évoquer l'hygiène, ouais, l'astiquage, enfin voilà, c'est Nagui. Hein. Désolé pour tous les enfants oubliés ou non reconnus du couple Alix Poisson-Thierry Godard qui n'ont pas été invités ce matin. En même temps, la production me dit qu'ils n'ont pas été payés. Ouf, l'honneur est sauf. Désolé pour tous ceux qui ont chopé le Covid pendant le tournage de Germinal et qui ont été écartés du projet, qui ont perdu de la thune, accessoirement la santé. Vous avez entendu Thierry Godard, c'est la faute de Samy Bouajila. Enfin, Samy Bouajila l'a attrapé à boire fricoté avec Guillaume de Tonquédec. Je vais laisser sur le site de l'émission le téléphone de monsieur Guillaume le contaminateur. J'espère bien que vous serez dédommagé. Désolé pour Émile Zola, Pierre Bachelet et Harakiri, Morgane Cadignan. La reine du cocktail nous a fait une petite composition dont elle a le secret. Elle nous a balancé les chorons sur l'intro des corons de Pierre Bachelet. Ben, je vous jure, parfois Morgane, elle peut être un peu chaune. Bon, désolé enfin pour une certaine Alix Godard qui, il y a deux minutes, a cru avoir une carrière dans le cinéma. Non, encore une fois, c'est Nagui qui dit n'importe quoi.
Oui, c'est ça, c'est ma patte.
Voilà.
Louis Pérez, Guillaume de Tonquédec, Natacha Lalinger, Samy Bouajila, Jonas Bloquet, Rosemary Perrault, Steve Tiencheu, Stefano Cassetti, Alyosha Schneider, Steve Drissen, Marie-Lou aussi Lou, Max Bessette de Malglaive, Valeria Cavalli, Guillaume Arnaud, Jean-Marie Frein, Vincent Denia, Eric Paul, Anne Conti, Solène Mazon, je pourrais encore aller beaucoup plus loin.
C'est
tellement
déjà
les rôles.
Classe de tous les
ouais, c'est super.
J'essaye. Et Alix Poisson et Thierry Godard dans cette série impressionnante en matière d'effets spéciaux, je repense à la descente de l'ascenseur quand je sais pas si on dit ascenseur d'ailleurs, je
quand l'entier descend pour la première fois dans la mine.
Wow.
Mais non, mais c'est d'ailleurs un bon c'est un truc quand même que je trouve qu'il faut dire, c'est que je pense sincèrement que c'est une série qu'on n'a pas l'habitude de voir des séries françaises comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quand même, bon, il y a l'intrigue, il y a tout ça, mais il y a un souffle, il y a une ampleur, il y a ce que vous dites, c'est-à-dire il y a ces effets spéciaux mais qui ne ressemblent pas à des effets spéciaux. Il y a quelque chose quand même de l'ordre d'une fresque que vraiment je trouve on n'a pas l'habitude de voir, quoi.
Entièrement.
Qui peut parler, ouais, il y a du spectacle et ça peut vraiment attraper tout le monde.
Et une musique aussi, une ambiance très David Lynch, j'ai envie de dire par moment, qui est super agréable aussi et qui aide à l'intrigue et à l'émotion. Germinal déjà sur Salto et mercredi prochain 21h sur France 2. Merci mille fois
Alix
Poisson, Thierry Godard d'avoir été nos invités. La semaine prochaine, l'atelière, c'est Leïla Kaddour Boudadi avec comme invité lundi Catherine Corsini et Pio Marmaille pour la fraction. Ensuite, il y aura Guillaume Canet, Marina Foïs, Fabrice Eboué, Xavier Beauvois, Sylvie Pialla, Catherine Meurice. Allez vous régaler.
Belle semaine.
Dans cette bande originale, rien. Et alors, tu sais, à un point,
tu nous écoutes.
Le farniente total, absolument. Mm. Comment passer à côté d'une belle émission comme originale. Passez une bonne journée, profitez et à lundi avec la bande originale.